Ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur. T'adorer déjà par notre présence en ce lieu, prouvant que nous t'aimons, nous te cherchons, nous te désirons. Éternel, notre Dieu, notre Roi, merci. Merci parce que c'est une grâce et un privilège que tu nous accordes. Plusieurs peut-être avaient souhaité d'être là ce matin, mais ils n'ont pas pu. Mais à nous, tu nous as accordé cette grâce. Sois loué, sois béni, Seigneur. Sois loué, sois adoré, éternel, mon Dieu. Toi qui nous as appelés à ce rendez-vous pour nous faire du bien. C'est pourquoi, éternel, mon Dieu, nous prions pour que tu nous aides à nous disposer, à recevoir de toi ce que toi tu as prévu pour aujourd'hui, afin que cela puisse produire des effets pour lesquels toi tu l'as envoyé, Seigneur. Éternel, mon Dieu, merci. Bénis ce moment, bénis ta parole dans nos cœurs. Permets, Seigneur, mon Dieu, que ta grâce, Seigneur, soit déversée sur chacun de nous. Merci pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom, bien-aimé. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on a eu une semaine très, très bénie. Ceux qui étaient là peuvent les témoigner. Dieu nous a fait beaucoup de bien tout au long de la semaine, parce que c'était une semaine centrée sur parler de l'importance de nos départements. Qui dit parler de l'importance des départements, dit aussi parler des serviteurs. Alors moi, ce matin, j'ai une question qui me monte aussi dans mon cœur. J'aimerais poser la question à l'assemblée de la bannière. Qui est serviteur? En ce lieu, il peut lever la main. Qui est serviteur? Il peut lever la main. Merci. J'ai l'impression que plusieurs n'ont même pas levé la main. Tout enfant de Dieu est qui? Alors, qui est serviteur? Levez la main, qui est serviteur? Merci. En réalité, si tu comprends que tu es serviteur, tu seras aussi capable d'accomplir ta mission, vrai ou faux. Mais si tu ne le sais pas, comment tu vas faire? Quand on va dire les serviteurs, toi tu vas dire non, on parle des pasteurs. Quand on va dire les serviteurs, tu vas dire non, on parle de la chorale. Quand tu vas dire aux serviteurs, tu vas dire on parle d'eux. Non, quand on dit serviteurs, on parle de nous tous. Maintenant, vous m'avez empêché de poser ma deuxième question. Que je pose ma deuxième question quand même. Qui fait partie du sacerdoce royal? Qui? Peuple de la bannière, non! Non, à la bannière, vous ne pouvez pas faire ça, non! Qui fait partie du sacerdoce royal? Tout serviteur fait partie du sacerdoce royal. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous qui? Des sacrificateurs. Tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, il est ton Seigneur, ton Sauveur, tu fais partie du sacerdoce royal, tu es sacrificateur. Oh, je comprends pourquoi la mission ne s'accomplit pas bien. Parce qu'on ne comprend pas ce que nous sommes. Oh! J'ai une troisième question. J'espère que vous me comprenez, parce que maintenant nous sommes tous des serviteurs, n'est-ce pas? Nous faisons tous partie du sacerdoce royal, n'est-ce pas? C'est biblique, mais l'État me manquerait de revenir chaque fois, sinon je ne dirai pas ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Qui veut être béni? Il y a quand même des gens qui n'ont pas levé la main. Je me demande, ils veulent quoi alors? Si nous sommes des serviteurs, si nous faisons partie du sacerdoce royal, si nous voulons être bénis, j'aimerais nous dire la parole d'aujourd'hui est pour toi. Mais quelle est la parole d'aujourd'hui? J'ai juste pris un petit thème en rapport avec ce que nous avons eu. Et j'ai pris un personnage biblique, un roi de Juda, Ozias, qu'on appelle aussi Azaria. Ozias. Il va nous enseigner. Ozias, c'est mon thème, serviteur de l'Éternel. Il était roi. À l'époque, les rois, c'était des serviteurs de l'Éternel. Et j'ai pris les textes de 2 Chroniques, chapitre 26. Normalement, on doit lire de 1 à 16. Mais à cause du temps, je vais juste prendre 1 à 5. Mais vous pouvez lire 1 à 16. Là, vous avez cette histoire telle que je vais essayer de toucher à cela ce matin. 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 1, la Bible dit: tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amasia. Ozias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amasia son père. Sa mère s'appelait Jécolia, de Jérusalem. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Dieu ne les fit pas échouer, Dieu les fit prospérer. Quand? Quand il a cherché l'Éternel. J'ai 3 leçons à nous proposer par rapport au fait que nous sommes des serviteurs et nous voulons voir dans la vie d'Ozias, qui est serviteur de l'Éternel, qu'est-ce que moi je peux tirer comme leçon pour que ma vie puisse être une vie qui prospère. Puisque la Bible dit, Ozias avait fait quoi? Il avait prospéré. Et à partir du verset 6, on nous parle toujours de cette prospérité et je vais revenir sur ça après. La première leçon que je veux nous proposer, c'est au sujet du règne d'Ozias. Le règne d'Ozias. Mais maintenant, si je vais dire, toi, qu'est-ce que... Je parle du règne d'Ozias par rapport à mon texte, mais par rapport à toi. Vous voyez, là où tu te trouves en ce moment précis, là où tu travailles en ce moment précis, ces temps ici que Dieu t'a donné à cet endroit-là, ces temps-là, là où tu es, je ne sais pas dans quel bureau, peut-être ménagère, peut-être même chômeur, mais ces temps-là, le règne d'Ozias. Frères et sœurs, remarquez avec moi, Ozias commence son règne à quel âge? 16 ans. Qui a 16 ans dans cette assemblée ici? Tous sont à l'Écodime ou bien il y en a ici aussi? À l'Écodime. C'est-à-dire, il a commencé comment? Très tôt. Très jeune. En tant que roi, Ozias, à partir de 16 ans, touche à quoi? Il touche à quoi? Il n'a pas d'argent, il n'a pas de richesse, il touche à quoi? Il a l'argent, il touche à l'argent, parce qu'il est roi. Quand que vous le vouliez ou pas, 16 ans, il est roi, il a l'argent. Et quand quelqu'un a l'argent, il fait quoi? Les jeunes qui sont ici, si toi tu as l'argent, on te donne comme ça 10 000 dollars, tu fais quoi? Tu oublies Dieu, Maman, tu peux crier non, mais nous nous connaissons. Quand l'argent, les pasteurs nous disent, quand l'argent entre dans la poche, la démarche fait quoi? Change. Et le comportement aussi suit la démarche. Mais la Bible nous dit quelque chose d'intéressant. Ozias, 16 ans, il a passé son temps à rechercher l'Éternel. Frères, sœurs, comprenons, ayons des objectifs. Qu'est-ce que nous poursuivons dans la vie? Ozias, est-ce qu'il n'y avait pas des choses intéressantes à cette époque-là? C'est vrai, la technologie, ce n'était pas ce que nous avons aujourd'hui. Mais quand même, à cette époque-là, il y avait aussi des choses qui étaient intéressantes. Surtout en tant que roi. Ce qui m'a intéressé aussi, dans l'histoire de Ozias, par rapport à ces chapitres que j'ai lus, en tout cas, on ne parle même pas de haut, il a eu plusieurs femmes. Non, on ne parle pas de ça. Mais on dit, Ozias, 16 ans, il marcha dans la crainte de Dieu. Qui marche dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire marche selon la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes toujours en train de justifier. Non, à mon âge, non, ici on fait, non. Ozias,
s'est vraiment s'est discipliné. Il a marché dans la crainte de Dieu. Et non seulement il a marché dans la crainte de Dieu, mais la Bible dit il s'est appliqué à rechercher l'Éternel. Ça m'a fait penser à Esdras. Esdras a passé son temps à rechercher l'Éternel. Il s'est appliqué. Oh, j'aime beaucoup ces verbes-là qu'on dit pour Esdras. La Bible dit, il s'est appliqué. Quelqu'un qui s'applique, c'est-à-dire, il ne fait pas une fois, non. Il se donne, il recherche, il agit, parce qu'il veut vraiment faire comme Dieu veut. Toi, depuis que tu as prié la semaine, à l'église, tu es venu depuis l'autre dimanche, et puis tu viens aujourd'hui. Lire la Bible même, je crois que tu es arrêté depuis le mois de janvier. Tu lis quand tu viens à l'église. Et tu vas dire, je cherche l'Éternel, il ne me répond pas. Ozias, a cherché l'Éternel, comme l'avait fait Esdras. Mais remarquez avec moi, il a cherché en suivant aussi le modèle de qui? De son père. Waouh! Il a cherché en suivant le modèle de son père. Frère, sœur, quel est le modèle que toi tu donnes après toi? Quel est le modèle que tu donnes à tes enfants? Quel est le modèle? Je vais revenir sur ça. Mais Paul parlant à Timothée, dans 1 Timothée 4, 12, il recommande à Timothée d'être un modèle pour les autres. Sois un modèle pour les autres. C'est comme ça que tu vas permettre que les gens puissent connaître que tu appartiens réellement à Dieu. Mais toi, quand tu es parmi les païens, tu es païen. Parmi les chrétiens, tu es chrétien. Tu es quelle chauve-souris? Chauve-souris, c'est quel animal? Mais c'est quel animal? Il est qui? Il est dans quel groupe? Mais qui est où? On va les mettre dans quel groupe? Des oiseaux. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez lire même Tite 2, 7. On nous recommande de servir de modèle. Je ne vais pas lire le verset hein, parce que le temps, j'aimerais un peu dire certaines choses. Le temps, si vous excusez-moi pour ça, vous pouvez lire. Mais maintenant, Paul ajoute aux Corinthiens, il dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme moi je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. » Frères, sœurs, père, mère, quand tu te promènes, quand tu es dans ta maison, est-ce que tes autres peuvent être tes imitateurs? Ou dès que tu entres, tout le monde dit, chéri, Fakomi. Dès que tu entres, tout le monde dit, notre maman qui parle beaucoup là est arrivée, nous on entre dans nos chambres. Qu'est-ce que les gens disent? Serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel, qu'est-ce que les gens disent quand toi tu arrives? Mais remarquez avec moi, la Bible nous dit aussi qu'Ozias a régné 52 ans. De tous les rois de Juda, il est le deuxième. Le tout premier a régné 55 ans et lui vient de régner 52 ans. Pourquoi? Parce qu'il a recherché l'Éternel. Proverbe chapitre 10, verset 27, que je vais paraphraser. Proverbe 10, 27 va nous dire ceci. La crainte de l'Éternel prolonge nos vies. La crainte de l'Éternel. Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu ou tu crains les hommes? Les hommes ne te feront rien. Les hommes, même s'ils t'emprisonnent aujourd'hui, demain ils vont te libérer. Mais Dieu, craignons Dieu. Craignons Dieu. Il a régné 52 ans. Tu veux vivre longtemps? Tu veux jouir de ce que Dieu t'a donné? Imaginez, il est devenu roi à 16 ans. Et il a régné 52 ans. A-t-il joui de ce que Dieu lui avait donné? Tu veux jouir de ce que Dieu t'a donné? Tu veux jouir de la place que Dieu t'a donnée dans la société? Un seul secret, recherche l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, servant de l'Éternel, appliquons-nous à chercher Dieu. Ma malheureusement pour notre ami Ozias, quand tout va bien, on se sent vraiment à l'aise. La Bible dit, il s'est enorgueilli. Frère, sœur, ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais, tu ne le fais pas parce que toi tu veux le faire. Tu ne le fais pas parce que toi tu veux le faire. C'est parce que Dieu permet que tu fasses ces choses, que tu aies ces choses, que tu sois ce que tu es. Regarde moi-même dans la famille là où toi tu es né. Pourquoi les autres ne sont pas comme toi? Pourquoi? Tout nous vient de Dieu et tout est obtenu par grâce. Si tu comprends ces choses de cette façon, tu vas t'éloigner de l'orgueil. Mais lui, quand il a eu maintenant de tout ce qu'il fallait, il était bien. Et en ce moment-là, même Zacharie n'était plus là. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il s'est enorgueilli. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il ne suffit pas de commencer. Il faut terminer. Nous commençons bien. Nous avons suffisamment de l'énergie. Ça marche bien. On avance, on progresse. Mais à un certain moment, si on ne fait pas attention, on se sent maintenant capable. Or, ma capacité vient de Dieu. Et c'est quand on se sent capable maintenant que l'orgueil fait quoi? Prend place. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Frères, sœurs, Dieu t'a élevé jusque là où tu es arrivé. Dieu t'a aidé à être ce que tu es. Dieu t'a permis que tu puisses faire ce que tu fais. Mais qu'est-ce que tu as fait de Dieu? Venir à l'église, c'est bien. Mais, ouvrir son cœur réellement et marcher avec Dieu, c'est mieux. C'est lui qui a permis que tu sois capable de faire le travail que tu fais. Que tu sois honoré tel que tu es honoré. Est-ce que tu peux maintenant permettre qu'il puisse cheminer avec toi? Afin qu'il puisse te conduire là où lui te veut. Ne te contente pas de là où tu es arrivé. Dieu a encore plus pour toi. Pourquoi toi tu veux t'arrêter? C'est vrai, hier tu n'avais pas autant d'argent. C'est vrai, hier tu n'étais pas ce que tu es. C'est vrai. Mais ce que tu es aujourd'hui, tu ne le savais pas hier. Et ce que tu seras demain, est-ce que tu le sais aujourd'hui? Il n'y a que Dieu qui sait. Pourquoi tu veux arrêter ta vie? Pourquoi? Frère, sœur, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Parce que nous, en tant que serviteurs de l'Éternel, en tant que servantes de Dieu, nous devons faire attention parce que l'orgueil précède la chute. Dès que tu vois que toi, tu commences à monter un peu, attention, la chute est devant toi. Quand tu sens que ton langage change parce que tu as constaté que toi tu es quelqu'un, attention, la chute est devant toi. Quand tu commences à constater que depuis que toi tu as commencé à travailler, tu commences à t'éloigner un peu de Dieu parce que tu te sens capable, attention, la chute est devant toi. Frères, sœurs, soyons des hommes et des femmes avertis et marchons dans la crainte de Dieu. La deuxième chose, son encadrement. Ozias a été encadré. La Bible nous dit qu'il a recherché l'Éternel durant tous les temps de la vie de qui? Zacharie. Mais dans son encadrement, j'ai pris ça sous deux angles. Parce que la Bible même parle aussi de son père et parle de Zacharie. Je prends d'abord l'angle du père, les pères. Au père, j'ai associé la mère. Et j'ai associé les aînés. Les aînés, même nous dans l'église, nous sommes des aînés, vrai ou faux. Bien-aimés, le temps nous manquerait, mais remarquez avec moi. Vous prenez l'histoire de Ozias. Son père Amasia, la Bible dit, il craignait Dieu. Ozias lui-même craignait Dieu. Maintenant, vous descendez, l'enfant de Ozias, Jotham. Jotham craignait Dieu. Vous descendez maintenant, l'enfant de Jotham, Akaz. La Bible dit, Akaz ne craignait pas Dieu. Vous imaginez? Ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. L'encadrement. Ozias était bien encadré par son père. Sûrement son père faisait des choses qui pouvaient l'aider. Je ne sais pas, il avait combien de frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, je ne sais pas. Mais au moins, je peux dire qu'il était encadré. Et j'ai commencé à réfléchir dans la Bible, aux familles. Je commence avec l'histoire de Jacob et ses enfants. Une histoire que nous connaissons, c'est dans votre Bible. J'ai essayé de réfléchir. 12 fils, n'est-ce pas? Mais apparemment, il n'y avait que un qui était, si je peux dire, craignant Dieu. Mais pourtant, Jacob avait fait une expérience avec Dieu. Vous vous souvenez au moins d'une chose de Jacob qui montre qu'il a fait une expérience avec Dieu? Une seule chose, vous vous souvenez? Il a fait quoi? Il a lutté avec. Il a lutté avec Dieu. Frères, sœurs, il avait expérimenté Dieu. Il connaissait Dieu. Mais qu'est-ce qu'il avait transmis dans ses enfants? En les encadrant, en les aidant, qu'est-ce qu'il avait fait? Attention à l'enseignement par accident. L'enfant passe seulement comme ça. Ah, papa prie, hein? Maman prie. Yaya prie, hein? Demain, il passe. Oh. Mais à cette heure-ci, d'habitude, il prie, non? Mais aujourd'hui, on dirait qu'il ne prie pas. Après demain, il est passé à l'église, oui. Et puis, il reste à la maison. Et l'enfant commence à se poser des questions. Est-il chrétien? N'est-il pas chrétien? Est-ce que papa part à l'église? Est-ce que maman part à l'église? Est-ce que maman prie? Parce que quand je regarde ce qu'on nous dit, ce qu'elle fait, je me pose beaucoup de questions. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça trouble. Jacob, tu te retrouves apparemment, on dirait, avec un seul enfant qui comprend les choses de Dieu, qui peut marcher dans la crainte de Dieu, qui peut faire des expériences avec Dieu. Et pourtant, Dieu t'en a donné 12. Frères, sœurs, la Bible ne nous parle pas des autres comme il faut. Mais je suis passé à l'exemple du sacrificateur Élie. Sacrificateur! Serviteur dans la maison de Dieu. Mais il se fait que ses propres enfants qui étaient censés les remplacer, ont fait quoi? Mauvais comportement. Dans la maison de Dieu. Frères, sœurs, je parle de ces choses pour nous responsabiliser. Je parle de ces choses pour te pousser à faire ta part. Tu as une responsabilité pour laquelle Dieu te demandera des comptes. Élie, qu'est-ce que tu as fait des enfants que je t'ai donnés? Puisque vous n'avez pas marché comme moi, je le veux. Tes enfants ont commencé à me déshonorer dans ma maison. Vous allez mourir tous le même jour. Je n'ai plus besoin de vous. Frères, sœurs, ne soyez pas l'objet de la malédiction sur votre maison. Soyez l'occasion, l'objet de la bénédiction sur votre maison. J'ai pensé à Josué. Josué et ses enfants. Josué a fait une déclaration que nous répétons jusqu'à aujourd'hui. Je suis dans Josué 24, verset 15. Qui dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frères, sœurs, nous sommes dans Josué chapitre 24. Lorsque nous passons dans Juges, Juges nous présente combien d'enfants de Josué? Juge nous présente quel héritage que Josué a transmis. L'histoire de Josué s'arrête. Josué, fin Josué, paf, l'histoire s'arrête. Et pourtant, il a fait une très belle déclaration. Il ne suffit pas de parler. Il ne suffit pas de vouloir paraître. Il faut être. Frères, sœurs, que ces choses nous réveillent, que ces choses nous aident à comprendre la parole et les désirs de Dieu pour chacune de nos vies, que ces choses nous amènent à comprendre notre responsabilité par rapport à la marche avec Dieu. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. J'aimerais dire à quelqu'un, l'encadrement spirituel, parce que même scolaire des enfants, ça exige aussi autre chose. Mais l'encadrement spirituel des enfants, quand je parle des enfants ici, ça peut être même dans l'église, il y a des enfants. L'encadrement spirituel des enfants doit être intentionnel. C'est pas quelque chose qui se fait au hasard, non. C'est intentionnel. C'est-à-dire, les jours où je me marie, on dit, aujourd'hui tu es pasteur de ta maison. Et comme je suis pasteur de ma maison, je dois faire quoi? Intentionnellement, je prends ma responsabilité. Mes frères, depuis que tu t'es marié, on t'a proclamé ici devant tout le monde que tu es pasteur de ta maison. Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Même si même ton propre enfant dit, papa viens, on va prier, tu dis quoi? Va prier avec maman. Et quand la papa va aller chez maman, maman dit, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais tu as accepté la responsabilité devant Dieu. On a proclamé ça ici devant Dieu. Pas devant seulement les hommes, mais devant Dieu, tu as accepté la responsabilité. Et en tant que pasteur de ta maison, pour venir même là où tu dois puiser la nourriture nécessaire pour pouvoir donner au tien, tu n'es même pas là. Frères, sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Comment vous pouvez comprendre? Nous disons nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous disons nous sommes des chrétiens. Nous aimons Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce que nous transmettons aux autres? J'ai dit bien l'encadrement, la spirituelle, doit être intentionnel. Parce que je connais ma responsabilité. Intentionnellement, je sais que moi, je dois tout faire pour que mes enfants puissent apprendre à prier, qu'ils apprennent et aiment Dieu, qu'ils apprennent à lire la Bible, qu'ils aiment l'Église. Mais si toi-même, tu n'aimes pas l'Église, si toi-même, tu es tout le temps absent à l'Église, comment tes enfants vont aimer l'Église? Bien-aimé, je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Excusez-moi vraiment. Je n'arrive pas à comprendre. Quand tout va mal, nous cherchons Dieu. Mais quand Dieu nous bénit, nous faisons quoi? Nous l'abandonnons. Je n'arrive pas à comprendre. Tu étais célibataire. Là, je parle à mes sœurs. Tu étais célibataire. Dieu t'a fait grâce, tu t'es marié. Tu t'es marié. Dieu te fait encore grâce, il te donne des enfants. Dès que tu as l'enfant, tu commences à expliquer à tout le monde. Cet enfant, vraiment, il dérange. Je ne sais même pas venir à l'église. Tu restes à la maison parce que l'enfant dérange. Et quand l'enfant qui dérange ne va pas grandir en un jour, il ne va pas grandir en une année, il ne va pas grandir en deux ans, il va grandir en autant d'années pour se sentir responsable et savoir s'asseoir comme il faut. Maintenant, toi, tu vas fuir Dieu pendant tout ce temps ou tu vas revenir? Tu vas revenir le jour où ça ne va pas? Bien-aimé dans le Seigneur, aimons réellement Dieu. Quelqu'un qui aime réellement voudra toujours être à côté de son bien-aimé, vrai ou faux? Je ne sais pas, peut-être j'exagère, mais réfléchissez-y. Nous aimons Dieu, nous parlons de Dieu et nous faisons certaines choses seulement avec nos paroles. Des bonnes choses. Avec nos paroles. Mais en action, c'est ça que Dieu veut. En action, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas. La deuxième chose, le coach. Zacharie était son coach ou son mentor ou son guide. Tu donnais les noms que vous voulez, ce n'est pas grave. Tel que nous sommes, tel que nous sommes assis, que nous les voulions ou pas, nous sommes des mentors, des coachs, des guides de certaines personnes. Des fois, la personne même ne t'a pas demandé. Et toi, tu ne le sais même pas. En commençant par nos frères dans la famille. Et nous passons par l'église où nous venons nous asseoir. Il y a des gens qui regardent et disent, en tout cas, moi, mon modèle, c'est X. Je veux continuer à regarder comment il fait. Mon modèle, c'est Y. Et même des fois, la personne va même t'approcher, parler avec toi, sans te dire exactement ce qu'il y a dans son cœur. Mais la personne est en train de copier sur toi. Tout comme la personne peut venir même te dire, vraiment, je veux que tu puisses m'aider, m'encadrer, afin que je puisse grandir. Mais bien aimé, regardez ce qui s'est passé. Zacharie, encadré, Ozias. Dommage, la Bible dit que Ozias a bien marché tout le temps où il a été avec Zacharie. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, il y a encore un autre roi, Joas, qui a vécu la même chose. Là, c'est dans 2 Rois chapitre 12, avec Jéhojada. Il a vécu la même chose. Il est devenu roi à l'âge de 7 ans, si je ne me trompe pas. Et maintenant, tout le temps que Jéhojada a vécu, lui aussi s'est bien comporté. Mais après que ce dernier quitte, ça ne va plus. Les comportements changent. C'est-à-dire, toi l'encadreur, toi les guides, toi les mentors, tu as mal fait ton travail. Pourquoi? Un mentor, un guide, doit aider la personne qui l'encadre à se découvrir. Tu dois aider tes enfants à se découvrir, à découvrir les talents qu'il y a en eux, les choses, les bonnes choses que Dieu a mis en eux, les forces qu'il y a en eux. Pas dire seulement, viens, je vais te conduire. Non, on part. Non. Aide la personne à se découvrir. Zacharie, aide Ozias à se découvrir. Pasteur, aide les fidèles, aide ces frères-là à se découvrir. Parle-toi, conduis-le, prends-le par la main, pars avec lui. Non. Tu peux prendre par la main, vous avancez un peu, toi tu tombes, et puis lui doit continuer comment? Et c'est toi qui connaissais l'objectif. Papa, maman, vous avez déjà vu que papa part auprès du Seigneur et les enfants restent. Mais les enfants là qui restent, est-ce que tu leur as montré la voie? Est-ce que tu les as aidés pour qu'ils puissent continuer en disant, mon père disait, ma mère disait, mon père faisait, ma mère faisait, moi aussi je vais continuer. Ou bien vous vivez au jour le jour comme on vit à Kinshasa. Frères et sœurs, que ces choses nous réveillent. Que ces choses nous réveillent. Un guide bien-aimé dans le Seigneur fructifie, capitalise les compétences qu'il y a dans l'autre. J'ai découvert dans mon enfant tel, il y a telle capacité. Je ne vais pas dire à l'enfant, non, je vois bien que cet enfant aime la mécanique. Et il se sent à l'aise. Moi, j'ai dit, tu dois faire la médecine. Qui a vécu ça? Qui a vécu une chose comme ça dans sa famille? On lui a imposé une section alors que lui voulait une autre section. Ça vous est arrivé? Au jour d'aujourd'hui, comprenons les réalités. Capitalisons, fructifions ce qu'il y a dans la personne. Acte 11, 22 à 25. Barnabas, quand il a découvert ce qu'il y avait dans Saul de Tarse, alors que Saul de Tarse était rejeté par les autres, la Bible nous montre que c'est Barnabas qui est parti le prendre par la main, jusqu'à l'amener même à Antioche. C'est Barnabas. Pourquoi? Il avait découvert les capacités qu'il y avait dans Saul. Mais toi, depuis que tu as découvert ce qu'il y a dans ton enfant, qu'est-ce que tu en fais? Depuis que tu as découvert ce qu'il y a dans cette personne que tu encadres, qu'est-ce que tu en fais? Tu continues toujours à dire, non, moi je connais là où on part, viens, je vais te laisser là où on part. Non, montre-moi la voie, apprends-moi à pêcher. Au lieu de me donner toujours l'argent. Connaissons, non, cet adage-là? Hein? C'est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher. Apprends à la personne qui... Fructifie. Un bon guide bien-aimé va aider petit à petit son protégé ou la personne qui l'encadre à exercer ce qu'il doit faire petit à petit. Il y aura des erreurs, il y aura des trucs, mais il va l'aider petit à petit afin qu'il avance, jusqu'à être libre dans son activité. Là maintenant, on peut te laisser, tu vas commencer à pécher toi-même. Au lieu de prendre la personne, tu veux être là. Et c'est comme ça que même certaines personnes, les parents veulent les accompagner même dans les mariages. Quoi? Ton épouse a dit? Hein? Ça, c'est quelle sorte de femme? Où est ton problème? C'est sa femme, c'est pas ta femme? Papa, maman, non! Apprenons à nos enfants à être libres. Apprends à l'enfant le sens de la responsabilité. Demain, quand il va se marier, il sera responsable et il va assumer les conséquences de ce qu'il a fait. Au lieu d'être là, tu déposes ta Bible et tu dis, vous allez divorcer. C'est quoi ça? Non! Si tu es serviteur, servante de l'Éternel, tu dois avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. Tu dois assumer maintenant et faire les choses de telle sorte que demain, tu sois dans la joie au lieu de commencer à regretter certaines choses. Non, bien-aimé. Que Dieu nous aide. Le christianisme aujourd'hui a des problèmes. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de bons serviteurs. Aidons les gens que nous encadrons. Aidons. Poussons les gens à se découvrir, à voir, à fructifier. Et c'est comme ça que le Seigneur sera béni. Ma deuxième leçon, c'est simplement dire ceci. Quand tu encadres quelqu'un, quand tu es encadré par quelqu'un, ne te laisse pas berner par quelqu'un qui te prend par les mains pour te guider. Non. Laisse-toi diriger par quelqu'un qui te dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et tu arriveras. Tu fais avec erreur, mais au moins, tu as fait. Tu vas chuter, et puis tu vas te relever, et il va t'aider, et puis tu vas chuter, et puis tu vas te relever, jusqu'à ce que tu puisses arriver. Et quand tu vas arriver, tu vas voir que tu auras gagné. Malheureusement, la Bible nous montre que Ozias, un bon serviteur, mais a perdu à la fin. Joas, un bon serviteur, mais a perdu à la fin. Mais quand nous regardons les gens que Jésus a encadrés, hein, ils étaient au nombre de combien? 12. Et ces 12-là, après Jésus, ont tout perdu. Jésus était là lui-même. Hein? Allez, allez là-bas, allez chercher ce que allez faire comme ça. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 10. Et il partait, il faisait. Et il revenait, il faisait les rapports. Et ils avaient échoué. Jésus a dit, très bien, mais voilà, il fallait faire comme ça. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Il est temps. Il est temps, il est temps. Troisième chose, sa recherche de l'Éternel. Sa recherche de l'Éternel. Frères, sœurs, l'histoire ici pouvait s'arrêter, comme je l'avais dit au verset 5. Mais ils ne se sont pas arrêtés au verset 5. Ça a continué. Pourquoi? Toute la suite, là, jusqu'au verset 16, ça nous explique seulement la prospérité que Ozias a eu à vivre. Seulement la prospérité. Ce n'est pas autre chose. Alors, cette histoire-là, quand ça nous explique ça, je me suis dit, qu'est-ce que la recherche de l'Éternel peut produire? Et j'ai donné mes petites réponses. La recherche de l'Éternel, un, aplanit mes voies. Quand moi je cherche Dieu, lui il aplanit mes voies. Je peux marcher comme il faut. Je n'aurai pas à faire des, oh non, je me suis cogné, je suis tombé, non. La recherche aplanit mes voies. Deux, la recherche de l'Éternel m'aide à remporter des victoires. Je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que je suis avec lui. Je marche dans la victoire. Tu les recherches, tu vas marcher dans la victoire, même si tu as l'impression que tu as échoué. Ce n'est qu'une impression. La réalité, tu es dans la victoire. Et ce que j'aime aussi, la recherche de l'Éternel sème la terreur autour de moi. Vous pouvez lire 2 Chroniques 17, 7 à 10. Quand ils ont cherché seulement l'Éternel comme il faut, bien aimé dans le Seigneur, tout le monde autour commence à avoir peur de nous. Et même dans l'histoire d'Ozias, donc quand vous continuez la lecture, cette recherche a semé la terreur. Les gens ont commencé à faire des choses pour eux. Vous pouvez lire, le temps me manquerait de revenir encore sur ça. La recherche de l'Éternel accroît notre renommée. On ne te connaissait pas. Mais plus tu vas chercher l'Éternel, plus tu seras connu. Pourquoi? Parce que tu seras avec l'Éternel et il fera des choses dans ta vie et ces choses, le monde pourra les voir. Frères, sœurs, la recherche de l'Éternel élargit nos limites. Tu veux t'étendre. Tu veux aller loin. Tu veux vivre des choses merveilleuses avec Dieu. Recherche l'Éternel. Lisez seulement la suite. Vous allez voir tout ce que je viens de dire là. C'est tiré seulement de là. Recherche Dieu. Je conclue en disant ceci. Frères, sœurs, nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Et en tant que serviteurs et servantes, pendant notre pèlerinage terrestre, alors que Dieu nous place à n'importe quel endroit, il veut que nous puissions continuer à les rechercher là où nous sommes. Et les rechercher d'une bonne façon et en faisant ce que nous devons faire afin de jouir de tout ce que lui a prévu pour nous dans ce monde pendant notre temps de vie sur cette terre. Et c'est possible avec notre Dieu. Nous allons prier. Élève ta voix et commence à parler à ton Dieu. Si tu es là, tu trouves que dans ce qui a été dit, il y a quelque chose qui t'a touché. Tu aimerais que nous puissions prier ensemble. Et peut-être aussi que tu t'es dit, mais toi, tu n'as même pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Comment tu vas faire pour jouir de ces choses? Tu peux juste lever ta main et nous allons ensemble prier. Tu peux juste lever ta main et nous allons prier ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait que nous prions ensemble? Tu considères ta marche, tu vois comment tu te comportes, tu t'es dit, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Y a-t-il quelqu'un? Merci bien-aimé. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci bien-aimé. Merci. 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 Merci à vous qui levez vos mains. Merci. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Merci. Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Y a-t-il une dernière personne qui aimerait lever sa main? Nous allons prier ensemble. Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Vous qui avez levé la main, Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Et alors que vous vous levez, prenez la bonne décision. Prenez la bonne décision par rapport à ce pourquoi vous vous êtes levé. Seigneur, au pied de ta croix, nous voici. Pour implorer ta grâce et ta miséricorde sur chacune de ces personnes qui s'est levée. Seigneur, ce matin, ma prière est levée de mon cœur et que tu poses ta main puissante et bénissante, Seigneur mon Dieu, sur chacune de ces personnes. Afin qu'à partir de maintenant, Seigneur mon Dieu, qu'ils marchent avec toi et pour ta gloire. Seigneur, afin d'obtenir la victoire, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans toutes ces choses pour lesquelles ils se sont levés. Permets que chacune de ces vies, Seigneur mon Dieu, serve à ta gloire dans ce monde et que la mission pour laquelle toi tu les as gardés en vie jusqu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, s'accomplisse, Seigneur. Tu vois et tu connais, Seigneur, parmi nous, qui est père, qui est mère, qui est aîné, Seigneur, éternel mon Dieu. Donne à chacun d'être un réel modèle pour les autres. Seigneur mon Dieu est un bon encadreur. Afin que Seigneur, demain après demain, lorsque nous aurons à te rendre de compte, Père, que nous ne puissions pas avoir honte, mais qu'au contraire, nous puissions, Seigneur mon Dieu, relever nos têtes parce que nous avons accompli ce que toi tu nous avais demandé. Seigneur, pardonne, Seigneur, toutes les fois où nous avons manqué de faire ce que nous devrions faire. Et bénis, Seigneur, mon Dieu, ton peuple. Bénis, Seigneur, toutes ces personnes qui se sont levées. Au nom de Jésus, amen.